Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous arrivons au numéro 782 du catéchisme de l'Église catholique. Et il pourrait être, sembler être assez provoquant ou conduire à certaines polémiques. Il dit en sa première phrase, le peuple de Dieu a des caractéristiques qui le distinguent nettement de tous les groupements religieux, ethniques, politiques ou culturels de l'histoire. Et il énonce sept éléments qui permettent de dire que le peuple de Dieu est distinct, très franchement, de tout autre type de groupe. Alors j'aimerais te poser des questions sur chacun de ces points. Par exemple, on dit que le peuple de Dieu, il est le peuple de Dieu, en insistant sur le terme de Dieu. Est-ce que ça veut dire que les autres groupements religieux, comme il est dit au début du 782, ne seraient pas, eux, de Dieu ?
Alors, tout peuple est peuple qui appartient à Dieu, puisque Dieu en est le créateur. Mais nous avions déjà souligné les différents ordres, l'ordre, je dirais, du terrestre, du créé, et l'ordre surnaturel. Et il est clair que l'Église porte en elle les germes de cette dimension surnaturelle. Et c'est pour cela qu'elle est peuple de Dieu à un niveau surnaturel, et pas seulement à un niveau naturel. Alors, que dire de ceux qui n'ont pas ce niveau surnaturel ? Eh bien, le Concile Vatican II va se pencher sur cette question et dira, il y a une ordination à l'Église. Tout peuple est peuple de Dieu, s'il ne l'est pas encore d'une manière surnaturelle, il est orienté, ordonné à l'Église. Et donc, il y a différents degrés d'appartenance à l'Église. Il y a l'appartenance effective, c'est nous, les catholiques, nous sommes certains d'avoir cette appartenance effective à l'Église du Christ, puisque nous sommes dans la succession des apôtres depuis l'origine, et elle est cette appartenance effective, pleine et salutaire quand les personnes qui vivent dedans sont dans la grâce. Elle est diminuée chez les pécheurs, et non salutaire si le péché est grave, mais ils appartiennent quand même d'une manière effective comme un membre mort dans l'Église. Et puis elle est commencée chez les catéchumènes, elle est salutaire déjà si présente, si la grâce est déjà présente. Et puis il y a tous les chrétiens non catholiques dans lesquels il y a là aussi cette dimension soit plénière, soit diminuée, soit commencée, mais seulement partielle, puisqu'il n'y a pas tous les éléments qui forment l'Église, une sainte catholique apostolique. Il y a des éléments qui sont de grâce, qui appartiennent d'ailleurs à l'Église catholique, mais qui font qu'il n'y a pas cette plénitude comme pour cette appartenance effective des catholiques. Et puis, il y a une appartenance tendancielle, tous les justes non-chrétiens qui sont dans une appartenance imparfaite et qui peuvent, malgré cette imperfection, être dans une situation salutaire si la grâce est présente en eux. Tous les hommes de bonne volonté, si la grâce est en eux, s'ils ont rejeté les méfaits du mal et de tout ce qui porte au mal, eh bien, ils peuvent être dans la grâce et déjà appartenir au Christ, à son Église, d'une manière invisible. Donc, la réponse de Lumen Gentium, je dirais, est très claire sur ce fait, et répond à la question que un des apôtres de Jésus se posait dans Jean 14, 22, Judas Paliscariote, qui disait à Jésus, « Seigneur, qu'est-il advenu que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Il y a toujours cette question, vous voyez, qui est sous-jacente dans le cœur de chacun. Pourquoi sommes-nous privilégiés ? Et nous sommes privilégiés non pas à cause de nos mérites, mais à cause du fait que Jésus, librement, nous a choisis en vue de porter du fruit, et du fruit en abondance. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est toujours ce fruit en abondance auquel nous sommes appelés à être ainsi actifs dans la volonté du Seigneur pour le bien de tous les hommes.
Ce peuple de Dieu intéresse beaucoup et certains sans doute se disent « mais moi je veux être membre de ce peuple de Dieu, je veux adhérer à cette association, où est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il y a un ticket à prendre ?» Alors, mais on lit au deuxième tiret de ce 782 que pour devenir membre, il faut naître d'en haut. Alors, c'est bien la première association ou sportive qui dit ce genre de choses. Comment on fait pour naître d'en haut ?
La question que tu poses ressemble beaucoup à celle que Nicodème pose au début de l'évangile de Saint Jean et qui même tense un peu notre Seigneur en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire de naître d'en haut ? Est-ce qu'on peut rentrer une deuxième fois dans le ventre de sa maman ? Et il le tense de cette manière. Et puis finalement, notre Nicodème, on sait qu'il fera des progrès puisque il défendra Jésus en disant est-ce que on peut condamner un homme sans l'avoir entendu, et il sera même celui qui ira chercher aux dépens de sa réputation Jésus sur la croix et le déposer dans le tombeau. Et donc notre Nicodème va à partir de cette question de la naissance faire bien des progrès, hein, puisque il va passer de seulement de cette question un peu narquoise, je dirais, à finalement le désir vraiment de naître d'en haut, de croître dans ce royaume où Jésus lui a dit « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si j'ai dit « il faut naître d'en haut », le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » Effectivement, l'Esprit est très libre et Jésus est celui qui porte l'identité du Père. Le Père est libre. Et n'oublions pas ce que disait un jour saint Anselme, un des grands écrivains en Occident de la tradition bénédictine, qui disait que la qualité de la liberté ne doit jamais être oubliée dans l'Église. Ce n'est pas une association où on rentre comme on obligerait des jeunes à faire partie d'un contingent parce que ce serait obligatoire. Non, le Christ ne veut pas d'une esclave pour épouse, dit saint Anselme, Dieu n'aime rien tant sur terre que la liberté de son Église. Et dans cette liberté, il y a la liberté des parents qui veulent donner le meilleur à leurs enfants. Vont-ils dire, pour des raisons égalitaristes, je vais donner la moins bonne école à mes enfants ou la moins bonne des nourritures à mes enfants pour qu'ils ne soient pas avantagés par rapport aux autres? Non. Ils veulent donner toujours le meilleur. Et c'est ainsi que les enfants sont baptisés jeunes, parce que les parents font partie de cette liberté de donner à leurs enfants le meilleur. Et le meilleur, c'est déjà la grâce.
Donc pour adhérer à ce peuple de Dieu, ça va passer par une grâce d'en haut, ça n'empêche pas qu'on peut la réclamer, on peut... Celui qui veut rentrer dans l'Église peut dire à Dieu, donne-moi cette grâce de pouvoir y entrer et en être un membre actif.
Oui, souvenons-nous dans Marc chapitre 9, il y a ce passage tout à fait émouvant de ce père d'un enfant malade et peut-être une maladie qui vient du démon, et il demande la guérison, et Jésus lui dit, celui qui a la foi, il obtient. Et qu'est-ce que dit ce papa? Il dit, Seigneur, j'ai foi, viens en aide à mon peu de foi. Donc, il comprend que la foi est un chemin de croissance. Il suffit pas de se proposer, de se dire croyant, il faut être toujours en chemin et aller vers une foi croissante. Il faut marcher avancer de plus en plus vers cet état dans lequel Jésus nous attend, qui fait que nous avons un signe distinctif de tous les autres, et le baptême imprime en nous un caractère dans l'âme qui nous fait distinguer de tous les autres, de ceux qui ne l'ont pas reçu sur la terre, mais aussi qui nous fait députer au culte, c'est-à-dire que nous sommes appelés à célébrer les merveilles de Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit dans son Église, et qui nous fait aussi orienter à la grâce. Ce caractère nous oriente à la participation à la vie du Christ, c'est-à-dire à être christo-conforme, à être conformé au Christ. Donc ce caractère reçu gratuitement ne nous laisse pas, je dirais, dans une situation statique. C'est un dynamisme sans cesse en nous pour croître dans la sainteté et dans le royaume.
Et un dernier élément, il y en aura d'autres pour la prochaine émission, mais il est dit, au comble de malheur pour nous, qui n'aimons pas trop avoir des patrons ou des supérieurs ou des présidents, dans ce peuple de Dieu, il y a une autre caractéristique, c'est qu'il y a un chef, et ce chef, c'est le Christ. Quelles conséquences y a-t-il d'avoir un chef ? Est-ce que c'est un chef qui est un peu éteint ? Ou est-ce que ça va vraiment changer des choses dans notre vie d'avoir un chef ?
Le chef est celui qui imprime le mouvement, qui imprime la direction. Quand on est corps, on suit toujours le chef, comme l'épouse suit son époux. Et donc il y a une orientation qui est donnée, mais c'est une orientation de service. Et ce n'est pas une orientation de domination. Jésus a voulu justement, juste au soir de la dernière scène, imprimer dans le cœur des disciples cette orientation au service pour qu'ils ne se méprennent pas sur la situation du Christ comme chef. Je vous rappelle le fameux passage de Jean chapitre 13 sur le lavement des pieds et la façon dont notre Seigneur nous convie à nous aimer les uns les autres par ce geste d'amour. Aussi, je vous le dis à présent, je vous donne un commandement nouveau, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est un premier exemple qu'il donne, c'est un élément de service. Et donc, on ne peut pas séparer l'amour chrétien du service. Donc, il n'y a pas de situation de supériorité dans l'Église qui ne soit pas liée à une mission de service. Donc en fait, celui qui veut être grand parmi vous, dira Jésus, qu'il se fasse le serviteur de tous. Et je crois qu'il y a là la réponse la plus directe à ce qui est demandé par le Seigneur.
Merci, frère Edouard. À bientôt.
Merci, à bientôt.